J'en viens maintenant donc à la présentation de notre conférencier de ce jour. D'abord, je le remercie, Marc Levin, d'être ici, d'avoir accepté notre invitation et de donner sa conférence en français. Comme vous vous en êtes rendu compte, c'est jamais facile pour un conférencier de donner sa conférence dans une langue qui n'est pas la sienne, surtout au bout d'un certain temps, c'est fatigant. Et je le remercie d'autant plus. Marc Levin est né en 1953. Il est diplômé de l'université de Warwick et puis PhD de Oxford en 1981. Avant d'être universitaire, il a passé, je crois que c'est très important à noter, il a passé plusieurs années à travailler à plein temps dans des organisations de lutte pour la paix. Son statut actuel, il est professeur d'histoire moderne à l'université de Warwick et il est sur le point de devenir professeur d'histoire comparative au Park Center pour l'étude des relations juifs-non-juifs à l'université de Southampton. Sa spécialité, c'est l'histoire juive moderne et plus généralement les relations qu'entretiennent les minorités avec l'État moderne. Et il travaille à une histoire générale du génocide dans le monde moderne. Ses publications sont War, Jews and the New Europe, la diplomatie de, excusez-moi, je passe au français, la diplomatie de Lucien Wolff, 1914-1919. Et en 1999, il a coédité avec Penny Roberts Le massacre dans l'histoire. Je vais lui passer la parole pour nous parler pendant une cinquantaine de minutes, peut-être un peu plus, des génocides, une particularité du XXe siècle, et puis ensuite il répondra à vos questions. Je vous demande seulement pour les questions d'essayer d'être simple et clair, de ne pas multiplier les considérations si c'est possible, de faire vraiment des questions et essayer de les poser une par une. Voilà. Je vous remercie, je lui passe la parole pour 50 minutes. Merci.
Merci, merci. Merci. Avant de commencer, je voudrais dire deux choses qui sont très importantes. D'abord, je suis très honoré d'être invité aujourd'hui, très sincèrement. La deuxième chose, encore plus sincèrement, je ne parle pas le français. And that's today's only joke. Il peut sembler étrange de commencer une conférence sur le génocide par un poème. Cependant, c'est ce que je me propose de faire. Ce poème a été écrit par Zia Gökalp, grand théoricien du nationalisme turc dans les premières décennies du XXe siècle. Ce poème a pour titre Esnaf Destani et a été composé à l'époque des désastreuses guerres balkaniques. Nous avons été vaincus à cause de notre grand retard. Pour prendre notre revanche, nous adopterons la science de l'ennemi. Nous apprendrons ses techniques, nous volerons ses méthodes. Au progrès, nous consacrerons toute notre énergie. Nous sauterons 5 siècles et ne resterons pas immobiles. Peu de temps nous reste. Vous vous demandez peut-être quel rapport ce texte entretient avec la singularité des génocides au XXe siècle. Ma réponse sera un rapport direct. En préambule, je me propose de montrer que la fréquence des génocides en ce siècle n'est pas une espèce d'aberration propre à certaines sociétés présentant quelques dispositions culturelles inhabituelles, que les génocides ne sont pas le produit uniquement de ces sociétés qui, peut-être à la suite de circonstances historiques malheureuses, ont adopté une voie particulière, un sens de vague dans leur développement, ni même de ces sociétés soumises aux lois non démocratiques de régimes hautement idéologiques ou autoritaires. Ces divers aspects peuvent nous apprendre quelque chose sur le phénomène que nous examinons ici. Mais ils ne permettent pas vraiment d'en analyser les sources. Selon moi, le génocide est un sous-produit de pulsions très générales qui tendent veut ce que l'on désignerait en allemand par l'expression Willensmacht, la volonté de puissance. Bien sûr, l'existence de telles tendances chez l'être humain n'a rien de nouveau. La seule chose qui distingue le XXe siècle dans ce domaine, c'est le cadre dans lequel cette volonté s'exprime. La volonté de puissance politique dans l'histoire contemporaine ne peut effectivement se manifester que par le biais d'États modernisés, en général d'États-nations, œuvrant au sein d'une communauté d'États semblables. Mais alors qu'aujourd'hui, nous pouvons considérer cette situation comme à la fois normale et normative, il est important de se rappeler que cette communauté, ou plus précisément ce système international et interconnecté d'États, ne vit le jour qu'au siècle dernier, dans des circonstances qui favorisèrent singulièrement, en termes de distribution de pouvoir, les États qui étaient déjà arrivés à ce stade un siècle plus tôt à moi. Le sentiment de frustration et de colère perceptible dans le poème de Gulkalp est inspiré par cette réalité. Nous savons également que ce sentiment se retournerait finalement à l'initiative du régime des jeunes Turcs auquel Gulkalp appartenait, contre un bouc émissaire à portée de la main, les Arméniens. Mais il est significatif que les Arméniens n'aient pas été choisis pour ce rôle simplement pour des raisons pratiques. Ils firent l'objet d'une extermination de masse parce qu'ils étaient perçus comme ayant un rapport avec ces forces plus générales qui, selon l'accusation de Gulkalp, empêchaient la Turquie d'avancer. Et cela à un moment de crise catastrophique où la recette préconisée par Gulkalp pour dépasser cette réalité venait de chouer de manière singulière et ignominieuse. Ou, pour revenir à notre argument central, si le génocide est tout autant une réponse de régime particulier à des réalités extrinsèques qu'il l'est à des réalités intrinsèques, alors nous pourrions penser que nous n'avons pas affaire à quelque chose d'autre et d'ailleurs, quelque chose que nous pourrions contempler à la télévision en nous disant qu'il ne s'agit là de l'infortune de sociétés autres, abandonnées de Dieu et n'ayant aucun rapport avec nous-mêmes, mais qu'il s'agit bien d'un sous-produit essentiel de cette société mondiale que nous avons dans l'Occident libéral, déterminé, façonné et dominé de manière significative. Je reconnais que cette thèse a de provocateurs. Cela exige un complément d'analyse. Mais auparavant, il me faut clarifier deux, trois points afin que vous sachiez bien de quoi je parle ici, même si nous ne sommes pas en accord. Le premier concerne la façon dont nous employons souvent le mot génocide. Ce terme n'a fait son apparition publique qu'en 1944, lorsque le juriste international Raphaël Lemkin l'a forgé. C'est pour cette simple raison qu'il n'a pu être employé avant cette date pour désigner des atrocités telles que celles souvenues dans l'Arménie ottomane au début du siècle. Cependant, alors que Lemkin savait que ce qu'il voulait décrire était tout à fait spécifique, nous entendons régulièrement aujourd'hui invoquer le terme de génocide pour qualifier toutes sortes de morts en grand nombre d'êtres humains ou d'animaux, ainsi que pour parler de sujets comme l'avortement, la stérilisation, le sida, le tabagisme ou les accidents de la route. Et si cet emploi de mots pour désigner les pires choses qui puissent s'imaginer peut, selon celui qui prononce le terme, nous renseigner sur notre culture occidentale actuelle, cet usage abusif a pour effet de vider de son sens l'intention première de Lemkin. Certains penseront qu'il s'agit là des lamentations classiques de chercheurs soucieux de clarté et de rigueur dans l'emploi des mots. Mais cette question de terminologie soulève un autre problème. En effet, les experts eux-mêmes ne sont pas d'accord. Nous disposons bien d'une convention des Nations Unies sur la prévention et la répression des crimes de génocide datant de 1948, mais elle est si émaillée d'incohérences au point même que l'on ne sait si le génocide implique ou n'implique pas de massacre réel, qu'elle ne saurait constituer une base solide de consensus ou d'information. Il se peut, bien sûr, qu'il y ait une raison extrêmement cynique à cela, raison que l'on ne saurait malheureusement écarter. Malgré la défense énergique de Lemkin d'une convention qui ferait du génocide un crime soumis à la loi internationale, le soutien des grandes puissances au lendemain de la Seconde Guerre mondiale demeura conditionnel et elles exigèrent qu'il n'y ait rien dans le protocole qui les contraignit à faire quoi que ce soit pour l'appliquer. Certes, il se peut que les grandes puissances aient voulu apparaître comme fixant un ensemble de critères des droits de l'homme, en particulier aux yeux des nouveaux États qui naissaient de la décolonisation, mais pas au point de préciser les aspects de la Convention ou de sa procédure qui contreviendraient à l'autre article majeur de leurs accords de l'après-guerre, à savoir le refus de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États. Cela a eu pour effet de créer, ainsi que l'a dit le spécialiste de génocide Leo Cooper, une situation où, pour des raisons pratiques, les Nations Unies ont défendu le droit pour l'État territorial souverain de commettre un génocide en tant que partie intégrante de sa souveraineté. Mais si cela nous apprend presque par défaut que le génocide est un acte qui ne peut normalement être accompli que par une entité ayant des hommes, des ressources et la capacité de commettre un massacre à grande échelle, prolongé dans le temps et systématique, à savoir un État, cela doit nous conduire à examiner une autre question historique sur la nature du phénomène. Est-ce là quelque chose de réellement nouveau? Les États ne sont-ils pas engagés dans des guerres d'extermination depuis des temps immémoriaux? Et si c'est le cas, en quoi est-ce que les génocides sont une singularité du XXe siècle? Je serais certainement d'accord pour dire que nous en sommes venus à être si obnubilés par les épisodes d'extermination de masse de ce siècle finissant que nous avons eu tendance à effacer de nos mémoires des épisodes semblables au siècle précédent. Cela a peut-être quelque chose à voir avec le fait que nombre de ces événements se sont produits en des lieux éloignés de notre vision ethnocentrique occidentale. En Chine, au milieu du 19e siècle, par exemple, la répression d'État de la révolte des Taiping et ses conséquences ont vraisemblablement réduit la population du pays de quelque 60 millions de personnes. De même, si nous nous tournons vers l'Afrique australe, un peu plus tôt dans le siècle, la période connue sous le nom de Methekan, ou Grand Écrasement, fut également le témoin de nombreuses guerres d'extermination. On pourrait dresser de semblables litanies sanglantes pour presque tous les siècles précédents, et remonter ainsi jusqu'à tout premier récit des exploits des Assyriens dans ce domaine. Mais est-ce que le massacre, fût de population entière, constitue un génocide? Certains chercheurs le pensent et citent en exemple toutes sortes de guerres anciennes et modernes. Personnellement, je serais assez prudent sur cette question. Le grand nombre des morts, les millions de non-combattants exterminés dans les bombardements aériens, y compris nucléaires, du siècle qui s'achève, ne constituent pas en eux-mêmes nécessairement la preuve de phénomène, alors que l'on pourrait citer un nombre de cas de génocide réel, en particulier dans les populations indigènes, où le chiffre des victimes ne s'est compté, si je puis dire, qu'en centaines. Peut-être est-il bon de répéter ici ma mise en garde initiale. Il ne s'agit pas, lorsque l'on parle de génocide, de la pire des choses imaginables, mais bien de ce qui distingue ce type particulier de massacre des autres. Cependant, ni la méthode ni la forme de cette tuerie n'apportent de réponse automatique à notre problème, tant nous nous sommes accoutumés à nous représenter le génocide sous la forme d'Auschwitz et donc d'une application perverse de la science moderne aux exterminations de masse. Tout d'abord, on ne saurait oublier qu'une proportion significative de victimes juives et ziganes ont été exterminées de manière bien moins sophistiquée d'un point de vue technologique que celle-là. Ensuite, il suffit de tourner notre regard vers l'exemple récent de Rwanda pour vérifier que les instruments les plus simples suffisent aux génocidaires pour atteindre leurs objectifs. Le fait de mentionner ici le Rwanda et l'associer dans un même souffle à la Shoah m'amène à ma dernière mise en garde avant de reprendre le point principal de mon raisonnement. Le génocide nazi des Juifs, dans son trajectoire systématisée, impitoyable, obsessionnelle et exhaustive, offre le paradigme clé quant à la nature de la bête au ventre toujours fécond dont nous parlons. Mais on ne saurait conclure que cela en fasse le seul exemple de génocide, ainsi que certains ont tendance à l'affirmer, ou que les autres génocides doivent avoir exactement les mêmes contours et les mêmes caractéristiques, ou plus un point plus important peut-être, les mêmes causes. Soutenir que le racisme, le préjugé ou la xénophobie, aussi détestables que soient ces tendances, sont à la source de tous les génocides, ne fonctionne pas dans tous les cas. De même, les explications qui ramènent tout au totalitarisme, aux idéologies non libérales ou à la stratification ethnique de société ne portent qu'un début de réponse et seulement dans certains cas. Mais où cela nous mène-t-il? Je suggérerai, peut-être de manière surprenante, après ce que je viens de dire, que non seulement les génocides ont, au moins dans leur variante moderne, un grand nombre d'éléments en commun, mais que, considérés dans leur ensemble, il existe des liens entre eux au point de nous permettre de déceler un schéma. un schéma qu'il nous faut comprendre de toute urgence, non seulement parce que selon les sources des sources fiables, nous avons connu quelques 50 génocides depuis 1945 dans les deux hémisphères et dans toutes sortes de sociétés. Le fait que la fréquence et l'ampleur des génocides ont ni plus ni moins augmenté au cours de la dernière décennie de siècle, décennie post-communiste, doit à lui seul nous alarmer. Tout d'abord, qu'est-ce que fait qu'un génocide est un génocide? Lemkin a non pas douté, considéré qu'il s'agissait d'une forme de guerre organisée par l'État, mais dirigée exclusivement contre un ou des groupes communautaires plutôt que contre d'autres États, avec l'intention de les annihiler totalement ou en partie. En mettant ainsi l'accent sur des actions visant à la désintégration de la structure biologique de groupe, Lemkin supposait un phénomène qui ne faisait pas de distinction de sexe ou d'âge, ses auteurs cherchant à détruire tous les membres du groupe, hommes jeunes, vieillards, femmes enceintes ou enfants en bas âge. Cette description soulève immédiatement deux questions particulièrement importantes. Tout d'abord, comment peut-on reconnaître un groupe communautaire? À cela, je répondrai qu'on ne le peut pas. Le groupe peut s'identifier comme tel en termes ethniques, religieux ou sociaux, mais pour ce qu'il en est du génocide, ce sont les auteurs de l'acte qui identifient le groupe comme un tout, ou plus précisément, peut-être, qui lui donnent une identité fausse. Après tout, lorsque les dirigeants nazis décidèrent de tuer les Juifs, ils n'allaient pas consulter les autorités rabbiniques compétentes. Ils décidèrent par eux-mêmes qui étaient Juifs. Ainsi que nous le savons, cela le posa de grands problèmes et la chose se compliqua encore pour les Tziganes, groupe qui, en dépit de tous les efforts de nazis pour lui donner une réalité généalogique, s'avéra incroyablement difficile à définir. Cependant, un point demeure. Si les auteurs de l'acte décident d'exterminer un agrégat de population parce qu'ils y considèrent qu'il constitue un groupe, ils le feront, quelle que soit l'autorité qui le démontre le contraire. Deux autres exemples intéressants viendront renforcer ici notre argument. Entre 1929 et 1932, l'État soviétique décida de programmer la destruction d'un segment entier de la prisonnerie au prétexte qu'il s'agissait de Kulaks, groupe dont l'existence et l'identité réelle à cette date étaient très discutables. Il s'en suivit néanmoins une extermination massive de pans entiers de la population rurale. Au Cambodge, en 1978, au summum du régime des Khmers rouges, tous les Khmers ethniques de la zone orientale furent accusés par le pouvoir d'avoir laissé les esprits vietnamiens s'emparer de leur corps Khmer. Accusation qui décida de leur déportation en masse vers d'autres régions où, du moins identifiés par les foulards bleus qu'ils furent contraints de porter, il faut ensuite exterminer. Ce dernier exemple particulièrement bizarre nous conduit à la seconde question de loin la plus critique. Pourquoi? Pourquoi des gens qui parfois même on n'aurait pas distingué du reste de la population dominante se retrouvent étiquetés non seulement comme différents, mais d'une façon telle que l'État, à un certain moment, décide que la seule forme d'action possible est de les éliminer. L'épisode des foulards bleus semblerait suggérer une réponse troublante, voire inquiétante, que le désir de génocide naît d'une projection phobique aiguë, digne de la série X-Files, d'une crainte d'être envahi et dominé par des étrangers, ou pour employer le terme anglais, des aliens. Ce genre de choses est difficilement concevable au XXe siècle. Cela rappelle davantage les angoisses du Moyen Âge, où monstres et démons peuplaient l'univers mental des gens. Comment concilier alors modernité fondée sur l'information scientifique et paranoïa exacerbée, politique d'État rationnelle et réfléchie se donnant des objectifs précis et hystérie collective, logique et pathologique? La raison pour laquelle nous jugeons de telles dichotomies problématiques a quelque chose à voir, je pense, avec l'hybris de notre époque et de notre culture. Nous nous plaisons à croire, non sans conduire, que, alors même que nous nous élevions jusqu'à notre civilisation sophistiquée, urbaine, droitement technologique, nous nous débarrassions des traits les plus irrationnels, les plus sauvages et les plus horribles de la nature humaine, et que cela nous avait transformé en quelque chose de très différent de l'homme médiéval et a fortiori de l'homme mésolithique. Les génocides nous rappellent en fait le gouffre énorme qui existe entre ce que nous nous proposons d'être et ce que nous sommes en réalité. Cela ne signifie pas nécessairement que nous soyons à jamais prisonniers de nos craintes viscérales les plus fondamentales ou condamnés à leur donner libre cours lorsque nous ne pouvons pas les maîtriser. Cela illustre plutôt le fait que ce que nous nous sommes efforcés de réaliser en tant qu'espèce, en particulier dans les deux derniers siècles, renferme en soi la potentialité pour notre nature de nous retomber sur la tête de manière dramatique. Dans cette affirmation se trouve peut-être la clé qui permet de comprendre en quoi le génocide est chose si spécifiquement moderne. Il semble que le génocide soit intrinsèquement lié aux efforts des États pour organiser socialement des sociétés indigènes ou traditionnelles, souvent de manière très, très rapide, voire même par des grands bonds en avant de caractère révolutionnaire, et concerne ce qui se passe lorsque, face à la simple magnitude des tâches qu'ils assignent, ces États font dramatiquement fausse route. Ce n'est donc pas un hasard si les victimes de génocide sont ceux qui se trouvent en travers de la voie, qui s'opposent activement ou dont les systèmes culturels de croyance remettent en question la plausibilité ou le sens de ces projets eux-mêmes. Il ne s'agit donc pas, en général, d'un problème unidimensionnel d'ethnicité, de religion ou de statut social. Ce n'est pas davantage une coïncidence si les premiers génocides authentiquement modernes remontent au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle et à des sociétés qui étaient à l'avant-garde du mouvement vers la constitution d'État-nation. Ainsi, ce furent la France révolutionnaire en Vendée, la Grande-Bretagne aux Amériques et aux Antipodes, les États-Unis dans leur élan d'hégémonie transcontinentale qui fournirent les procédures prototypiques du génocide. Et ce qu'ils firent pour s'assurer une puissance à l'échelle mondiale, les bâtisseurs d'États et d'États-nations plus proches de nous dans le temps, se forcèrent de limiter. Mais comme les enjeux devenaient plus importants et la compétition plus dure, la nécessité d'accélérer le mouvement ou de trouver un raccourci pour rattraper le peloton de tête ou simplement pour rester à niveau dans ce monde de développement toujours plus socialement darwinien, assura la généralisation du phénomène à la planète. Ou, pour exprimer les choses différemment, plus la tendance était grande de transformer les limites des réalités politiques et économiques modernes, et plus forte était la potentialité et l'étendue d'un génocide. Mais tout cela, bien sûr, est un peu simpliste. Toutes les sociétés n'ont pas, au XXe siècle, emprunté la voie du génocide. Les grands États libéraux occidentaux ont, de manière significative, rejeté leurs anciennes tendances génocidaires, au moins dans le cadre de leur politique intérieure propre, et l'on peut citer des dizaines d'autres États-nations nouveaux dont l'émergence, même si elle fut tourmentée et difficile, voire sanglante, n'a pas entraîné quoi que ce soit que l'on puisse désigner du terme de génocide. Si notre argument est qu'il existe dans tous les États modernes au moins une potentialité de commettre ce type d'acte, une question demeure. Quand donc en commun l'Allemagne, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Irak, le Cambodge, l'Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh, la Birmanie, l'Éthiopie, le Rwanda, le Burundi, le Soudan et le Guatemala, pour ne nommer que quelques criminels notables? À premier vue, peu de choses. La diversité de ce groupe, en termes de richesse et de puissance, pour ne rien dire de l'arrière-plan politique et culturel, n'offre guère matière à comparaison. Et toute tentative visant à suggérer comme lien commun des penchants idéologiques ou des systèmes totalitaires reviendrait à pousser l'argument jusqu'au ridicule ou à imposer une comparaison avec d'autres régimes idéologiquement fort ou porté à l'autoritarisme et qui ne se sont pas comportés de façon notoirement criminelle. Pour dire cela de façon plus sèche, comment pouvons-nous établir un lien entre les génocides commis par l'Allemagne nazie et le Rwanda sous pouvoir Hutu? En d'autres termes, entre un géant excusez-moi. Un géant industriel. Excusez-moi.
Ha ha ha.
Hello. Entre un géant industriel moderne et une authentique société civile et une histoire profondément marquée par la philosophie des Lumières et un État lilliputien, postcolonial, sous-développé et épouvantablement pauvre, si obscur et si éloigné des grandes voies d'échange, qui rares étaient les Occidentaux qui auraient pu le situer avant 1994 sur une carte mentale, pour ne pas dire réelle. Une réponse simple à cette question insidieuse pourrait être « n'oublions pas notre ethnocentrisme ». Permettez-moi cependant de proposer rapidement trois éléments qui, je le crois, rendent compte, dans les deux cas évoqués, d'une tendance plus forte au génocide. Deux de ces éléments sont étroitement liés. Je qualifierai le Rwanda et l'Allemagne de jeunes États anciens et d'États à la fois deux États anciens et d'États à la fois puissants et faibles. Je m'explique. Si l'on examine l'histoire du Rwanda, par exemple, c'est un État qui a dû se redéfinir radicalement afin de s'engager et de se vivre dans le monde moderne, mais de son propre point de vue culturel et politique, il pouvait, avec quelques raisons, évoquer un passé précolonial où non seulement il avait une cohérence politique et territoriale, mais aussi le sentiment de sa propre puissance. Ainsi, les Rwandais sont profondément conscients que, dans le passé, l'État non seulement comptait au niveau régional, mais que d'autres peuples le considéraient avec respect. Lorsque vous avez une telle idée en tête, les occasions de transformer ce récit en un mythe national de l'âge d'or sont froissants. En fait, la modernité a fourni un instrument très particulier, l'histoire, avec lequel jouer à ce jeu, mais aussi l'inculquer à des générations d'écoliers. Ainsi, tous les Rwandais de l'époque contemporaine ont été sensibilisés à l'opposition entre le passé et le présent. Jadis, nous étions forts, pourquoi nous ne le sommes-nous plus aujourd'hui? La frustration implicite dans cette question est bien sûr toute relative. Personne à l'extérieur d'Allemagne, après sa création politique moderne en 1871, n'aurait songé à dire qu'il ne s'agissait pas d'un pays très puissant. Mais pour beaucoup d'Allemands, dans la période qui précéda la Première Guerre mondiale, c'était là le sentiment commun. Oui, l'Allemagne devait être donnée son histoire, être forte, mais d'une certaine façon, elle s'était vue refuser son tout, empêchée d'avancer et d'obtenir sa juste place dans le monde. L'angoisse ici, comme dans le poème de Goldkalp, semble, à première vue, ne concernait que le sentiment de faiblesse d'une société par rapport au monde extérieur. À cela, la solution manifeste, comme dans le texte de Goldkalp, semblerait devoir être une réforme administrative, économique et scientifique radicale et rapide. Mais que se passe-t-il si une telle réforme s'avère difficile? Si le processus s'enraye ou s'épuise, si les perspectives de changement s'éloignent. Toutes les conditions semblent réunies alors pour que le doute de soi s'installe. Mais dans ce type d'état d'esprit, les choses se passent rarement ainsi. Ce qui s'instaure, Le plus souvent, c'est le soupçon que quelque chose empêche l'élément sain et bon de la société d'aller de l'avant, quelque chose qui affecte sa santé, lui vole sa vertu, ampute son intégrité et affaiblit sa virilité. Il s'agit peut-être, là encore, du langage des X-Files. Mais c'est exactement le type de peur phobique que nous retrouvons à l'arrière-plan des génocides. Que le groupe soit Tutsi, Juif ou Arménien, la description qui en est faite est toujours celle d'un corps étranger qui non seulement ne s'insère pas dans le tout national, mais dont l'existence même en bouleverse l'équilibre. Bien sûr, il y a autre chose. Le groupe considéré est également soupçonné de commettre des actes de malveillance, d'agir de l'intérieur pour saboter les avancées, de conspirer avec l'ennemi étranger, de ruiner les chances de progrès et finalement de détruire le peuple lui-même. Si cela revient à inverser ce qui se passe réellement lors d'un génocide, il demeure qu'il y a là une réalité qui mériterait, si nous en avions le temps, d'être analysée. Il me semble que nous ne pouvons écarter de la nature du phénomène une interaction ou une dynamique entre ce qui devient le groupe victime et la société dominante, ainsi qu'entre ce groupe et l'État. Le fait que nous recourions à des termes tels que « victime » et « auteur des actes », comme si le monde se composait réellement de ces deux catégories d'êtres, revient à répéter la distorsion faite par les génocidaires. La seule différence étant que ce sont ces derniers qui se donnent le rôle de victime. Mais le fait, pour qu'un génocide soit commis, que l'État doive avoir quelques capacités écrasantes à un moment donné d'exterminer systématiquement un groupe qui n'a aucun moyen de se défendre, n'exclut pas, dans une situation antérieure, il ait pu y avoir une interaction réelle. Certes, reconnaissons-le, dans le cas extrême de la Shoah, cette interaction s'est déroulée presque entièrement dans la tête des auteurs de génocide. La menace internationale, pour ne pas dire cosmique, que les Juifs étaient censés présenter, étant en proportion directement inverse de leur absence réelle et totale de moyens de nuisance. Mais cela ne signifie nullement qu'il serait juste de réifier ce groupe et d'en faire quelque objet passif unidimensionnel, attendant d'être massacré. Il nous faut donc instamment comprendre le contexte dans lequel une interaction éventuellement déplaisante et à très long terme entre un groupe communautaire et l'État, même lorsque cette interaction se fonde sur un ensemble d'incompréhension et de fabulation, se cristallise en quelque chose de bien plus dangereux et finalement de génocidaire. Permettez-moi une fois encore d'illustrer cela en prenant l'exemple de Rwanda. Nous ne pouvons comprendre ce qui s'est passé en 1994 sans savoir ce qui s'est également passé dans ce pays entre 1959 et 1963. Vous avez là un État qui émergeait du colonialisme et où existait une réelle dynamique entre deux élites. L'une à prédominance Tutsi, représentant ceux qui avaient par tradition détenu le pouvoir, l'autre Hutu, représentant la grande majorité de la population. L'élite Hutu gagna, faisant non seulement de cette victoire une grande date révolutionnaire dans l'histoire du pays, mais se donnant ainsi l'occasion de présenter à la population et au monde une version Hutu spécifique de Rwanda à la fois historique et actuelle. Le problème fut que si l'élite Tutsi avait clairement été renversée, elle n'accepta pas sa défaite. Cela entraîna une longue période de crise au cours de laquelle ses partisans cherchèrent à déstabiliser le régime à partir des pays voisins où ils avaient fui. Mais les gens qui se trouvaient dans une position dorénavant très vulnérable étaient les Tutsis restés au Rwanda. Qu'ils se soient identifiés à leur position en exil ou vu comme des soutiens loyaux du nouveau régime, il était inévitable qu'ils deviennent des boucs émissaires au cours de 30 années suivantes, dès que des rumeurs circulaient d'une nouvelle invasion Tutsi ou d'un massacre de Hutu au Burundi voisin dirigé par des Tutsis. Le point, en fait, est le suivant. Quand les enfants des exilés Tutsis envahirent effectivement le pays en 1990, provoquant alors une crise réelle, les enfants des vainqueurs Hutus de 1959 perçurent les événements à la lumière des termes anciens du problème. La nation, une fois encore, était en danger. Les gains de la révolution menaçaient de disparaître. Mais cette fois, les plus radicaux d'entre eux se promirent de ne pas répéter l'erreur qu'avait faite leur père. Cette fois, il y aurait un nettoyage tutsi complet et total. Nous sommes, je suppose, familiers de l'expression « plus jamais cela » employée par les mémorialistes de la Shoah pour conjurer de nouveaux génocides. Avec les radicaux Hutus qui prirent le pouvoir en 1994, nous avons un aperçu de ce que je nommerais le syndrome de « plus jamais cela » des auteurs de massacres. Et ce syndrome introduit le troisième élément qui distingue la potentialité d'un génocide dans tous les États modernes de sa réalité concrète. Les grands génocides de siècles qui s'achèvent se sont tous produits quand des dirigeants radicaux de vieux États jeunes, puissants et faibles à la fois, ont jugé que l'intégrité de leur État était menacée par des forces qu'ils associaient à quelque autre moment de crise semblable du passé récent ou mythique. Quand Hitler se lança dans la solution finale à l'été de 1941, alors que l'offensive contre le URSS ne se déroulait plus selon les plans, ce fut manifestement en mettant en avant le souvenir de plus jamais cela de novembre 10, 1918, date de la défaite d'Allemagne lors de la Première Guerre. L'idée que c'était des révolutionnaires juifs qui, dans les rues des villes allemandes, avaient donné le mythique coup de couteau dans le dos, nous en dit beaucoup, bien sûr, non seulement sur l'état d'esprit de Hitler, mais sur celui de millions d'Allemands incapables de regarder en face la réalité d'un traumatisme et d'une catastrophe qu'ils étaient imposés à eux-mêmes. Si nous voulons vraiment comprendre ce qui a commencé à se passer à l'été de 1941, nous ne pouvons le faire sans référence à ce souvenir déformé. Le même genre de schéma apparaît dans le massacre des Arméniens de 1915, le plus jamais cela des jeunes Turcs, en voyant cette fois à de prétendus complots arméniens visant à souvêtir et à détruire l'État ottoman dans les années 1890. Attribuer des pouvoirs aussi gigantesques à une communauté entière, mais assez disparate des 1 ou 2 millions d'individus qui ne cherchent par ailleurs qu'à vivre au jour le jour, nous renvoie clairement au monde du pathologique. Mais cela nous en dit peut-être également beaucoup sur ce que les dirigeants d'un État sont prêts à faire dans ces circonstances véritablement désespérées, même s'ils sont largement responsables de ces circonstances. L'antipathie des jeunes Turcs pour les Arméniens, se donna finalement libre cours et tourna au génocide au moment où les forces franco-britanniques débarquaient non loin de Constantinople dans les Dardanelles. Si les génocides surviennent souvent dans le cadre d'une guerre générale ou d'une menace de guerre, ce n'est pas simplement parce que cela assure une couverture commode derrière laquelle perpétrer un programme d'extermination de masse, mais parce que le groupe visé à l'intérieur peut être perçu par les génocidaires comme une extension de l'ennemi extérieur. Dans le cas extrême de la Shoah, bien sûr, cette relation se trouve en fait inversée. Les prétendues plutocraties occidentales et les communistes russes obéissant aux ordres des juifs tout-puissants et maîtres du monde. Mais même dans ce cas, cela n'empêcha pas les auteurs du génocide de traiter les vieilles femmes juives ou leurs petits-enfants en saboteurs et en partisans. Le fait d'accuser les victimes d'être les agents et les laquais des puissances étrangères déterminées à détruire la nation et l'État non seulement permet d'expliquer en partie pourquoi l'antipathie contre un groupe peut, dans des circonstances de crise grave, déclencher une réaction génocidaire, mais il nous ramène aussi brutalement à l'actualité la plus récente. Nous avons la tentation de voir ce qui s'est passé au Kosovo l'an dernier comme un génocide qui aurait été évité par l'action internationale menée par les puissances occidentales. Mais le plus inquiétant, c'est que le compte à rebours qui mena aux scènes de misère collective que nous vîmes aux frontières de la Macédoine et d'Albanie contenait également les éléments classiques d'un génocide sur le point d'éclater et dont le prétexte avait été fourni, involontairement certes, par ces mêmes dirigeants de la communauté internationale sous la forme d'ultimatum adressé à la Serbie à Rambouillet. Cela nous ramène au paradoxe inscrit au cœur du génocide. Le génocide est l'acte de régime désespéré dans des sociétés dont la transition vers le monde moderne a été particulièrement difficile, des sociétés qui ont connu un ou plusieurs grands traumatismes collectifs, ou encore qui ressentent quelques frustrations ou amertumes profondes, généralement partagées par les élites et une part importante du peuple, devant l'inadéquation du monde tel qu'elle le voit et de ce qu'elle pense qu'il devrait être. C'est pour cette raison que des régimes hautement militarisés ou idéologiques sont en général capables de s'emparer du pouvoir et de le conserver dans un premier temps, souvent avec le soutien d'une large part de la population, pour mettre en œuvre des programmes radicaux, voire idiosyncratiques de développement, même lorsqu'ils contreviennent aux règles internationales élémentaires ou font fi de la réalité. Il ne s'agit pas là d'excuser les conséquences de génocide réel ou potentiel. Ce n'est qu'une explication de la raison pour laquelle un pays comme la Serbie, se jugeant acculé, voyant ses ambitions de puissance balkanique étouffées et son intégrité territoriale menacée, peut choisir de répondre en donnant libre cours à sa fureur contre ceux qu'il perçoit comme les agents d'une conspiration internationale dirigée contre lui, à savoir les Kosovars albanais. Il se peut que l'État serbe ait eu de manière latente depuis 50 voire 100 ans l'ambition de se débarrasser de ces Kosovars. Mais le catalyseur fut ce moment où l'apocalypse nationale parut imminente. 5 ans plus tôt, à Arusha, en Tanzanie, un scénario très comparable à celui de Rambouillet s'était déroulé. confronté à une communauté internationale qui pesait de tout son poids sur le régime à majorité hutue du Rwanda et exigeait qu'il partage le pouvoir avec le Front patriotique rwandais composé d'exilés tutsis, les membres radicaux du régime répondirent par un crépuscule des dieux à leur manière. En cette occasion, bien sûr, aucune force de l'OTAN ne fut envoyée à la rescousse. Le Kosovo prouverait-il alors que nous avons progressé, que nous pouvons espérer un siècle nouveau régit non seulement par un nouvel ordre mondial libéral, mais également policé de telle façon que l'idée même d'un État recourant au génocide devienne une impossibilité? J'ai cherché ici à suggérer que même si les circonstances s'y prêtaient, nous ne pourrions traiter les causes de ce phénomène. Le génocide est un dysfonctionnement, non de société particulière, mais de notre communauté mondiale tout entière et de l'économie politique qui va avec. Il se peut que pour des raisons propres aux Nations Unies et pour satisfaire nos propres fantasmes, nous considérerions aujourd'hui cette communauté comme un ensemble d'États-nations également souverains et indépendants. Mais c'est cette même sophistique dans un monde profondément inégalitaire dans la distribution réelle de la puissance qui a constitué un puissant aiguillon pour tant d'États qui s'efforcent de réaliser ce qui est, dans les faits, irréalisable, à savoir la véritable indépendance. Il est bien sûr une autre ironie à cela. Alors même que les exigences de l'économie politique internationale augmentent, le désir d'État relativement faible d'accéder à un développement rapide se heurte de plus en plus à des facteurs contraires. Concurrence économique, explosion démographique, rareté de ressources et dégradation écologique massive. Les conséquences sont déjà sous nos yeux. Des ponts entiers de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie centrale, où les États ont, dans les faits, plongé dans des guerres civiles perpétuelles, le chaos écologique, les flux de réfugiés et la famine. Dans cette couche la plus inférieure de l'existence, nous pouvons nous attendre au XXIe siècle à une spirale continue de morts en grand nombre, sans que nous puissions dire de manière précise quelle part les génocides y prendront. Nous ne disons pas que la chose elle-même, le génocide, a des chances de disparaître, mais simplement que son champ d'intervention se limitera à une couche légèrement supérieure où les États continueront à lutter pour rester dans la course de développement. Il se peut que parmi ces États susceptibles de se livrer à ce genre d'actes, ceux qui s'inscrivent le plus clairement dans la sphère d'influence occidentale ou qui sont les plus sensibles à ces menaces et à ces flatteries, le risque de génocide soit tenu en échec avec le concours, n'en doutons pas, d'instruments légaux plus rigoureux définis par une convention des Nations Unies refondues et la création probable d'une Cour de justice internationale permanente. Des hauteurs de la couche supérieure, libérés de la menace des génocides, il se peut que les grands États du système international cherchent à garder le contrôle de l'incidence des génocides tout en évitant le plus possible toute confrontation avec la dynamique d'un développement historique inégal qui nous a amenés là où nous sommes. Mais il se peut qu'alors les choses aient changé. En relevant le défi que consiste à trouver des solutions à long terme pour empêcher les génocides et les massacres dans le siècle à venir, peut-être serons-nous capables de dépasser les symptômes et d'envisager pleinement le fait que nous sommes également une donnée de problème. Merci.
Je voulais simplement parler de ces problèmes de la, donc c'est par ici. Parler donc de ces problèmes du génocide en tenant compte du fait qu'il me semble qu'il convient de faire la différence entre les actions qui sont conditionnées par des systèmes de valeurs et des actions qui sont conditionnées par un état de nécessité. Dans le cas du nazisme, il est tout à fait normal de comprendre le résultat de l'action du nazisme dans la mesure où la théorie naziste et le Mein Kampf de Hitler l'avaient très bien annoncé. Et devant le peuple supérieur de la Herrenrasse, il y avait des peuples qui avaient le droit à la servitude et d'autres qui n'avaient même pas le droit à la vie. Donc le programme était tout à fait clair et énoncé. Maintenant, il se pose le problème de destruction produite par le christianisme. Dans le cas de l'Amérique, le problème de l'esclavage, etc. Là, il se pose la question, quel est donc le système de valeurs qui conditionne cela? N'oublions pas que l'Amérique fut une donation et que la donation...
S'il vous plaît, je vous ai demandé, je reviens à la question, à ma remarque, je vous ai demandé d'essayer de faire des... Excusez-moi.
Dans quelle mesure, donc, le système de valeurs ne conditionne pas ce type d'action ou l'état de nécessité?
I'm sorry, this is polemic, so, isn't it?
No, it's not polemic. No. It's about, I say, there are some sorts of genocide where there is a system of values which really promotes the genocide. What about this, in the case of genocide, in the case South America, when the system of values doesn't promote the genocide, in the case of Christian religion, for instance? Can you make a difference between...
I don't know. Would he like to cite a particular example? If on peut citer...
Quel exemple particulier vous donneriez? L'exemple du génocide?
De l'état de nécessité, par exemple, la destruction de l'économie dans le cas de l'Union soviétique et du système de
l'histoire.
Et le cas, par exemple, de ce qui est le système de valeurs, vous avez d'un côté le nazisme et de l'autre côté le christianisme qui est conditionné par le système de valeurs. Et lorsque nous avons parlé de guerre de religion, c'est le système de valeurs.
So would you make a difference between a system of values and the pressure of necessities of economics, conditions, and so on? Okay.
Mm-hmm. Well, okay, I think what... Shall I speak loud and then you...
Loud, yes.
Okay, I'm going to speak in English and Yves's going to...
And I will try to translate.
Okay,
sorry. J'essaierai de traduire.
Je m'excuse. Values are an issue. And I'm not denying that there is an internal that what happens in a specific country is important in terms of its cultural values, but that I'm trying to argue a case where we can see genocide in a broader framework. Why it's both possible to have a genocide in a country like Brazil in the modern world, or a country like the Soviet Union, and that there are things which may, in part, be in common.
Oui, alors, je traduis. Marc Levin dit que les questions de valeur peuvent être effectivement une question qui se pose, mais que lui essaye d'analyser les génocides en termes de conditions dans les pays, hein, en termes de conditions... et de comparaison de ces conditions. Et donc, si je comprends bien, je veux dire, ce ne sont pas les questions de valeur qui sont les plus importantes, mais si vous avez suivi sa conférence, ce sont, je veux dire, les caractéristiques de la situation, les phases de modernisation et la manière dont dans une crise de transition, les gens se réfèrent à un traumatisme antérieur. Donc, c'est la, si je comprends bien, les questions de valeur sont moins importantes que les questions de structure de situation. Non?
Non? Oui. C'est vrai.
Vous êtes poli, vous êtes gentil. Une autre question, s'il vous plaît. Après, on verra.
Jacques. Oui. Bonjour.
Bonjour Jacques.
J'ai beaucoup apprécié ta conférence. Simplement, une question pour explorer un autre aspect. La convention de l'ONU de 1948, n'est-ce pas, c'est convention pour la répression et la prévention du crime de génocide. Donc, en dépit de ce tableau historique tout à fait considérable, est-ce qu'il y aurait des pistes pour la prévention aujourd'hui qu'il serait possible d'indiquer ? Ou bien est-ce que la prévention, c'est simplement wishful thinking ?
I think I got most of that, but say it again, yes.
The convention. Besides that convention, what are today the legal prospects for prevention of genocide?
Well, Jacques, this is very interesting because, in a way, what I've been saying, I think, is that I don't think the legal issue is the real issue. We do have this convention, and if states in the world were wanting to do something about genocide within the terms of the convention, even though the convention is full of holes, they could have done so. And it may be now, because we are in a different system, a post-communist system, where there is, if you like, a new world order, it is possible that legal instruments may be useful. But one also ought to note that the most significant player which might wish to sign up to the International Criminal Court is the United States, and it has chosen not to do so. This leads me to propose that this is an issue of political will, not of legal nicety. That may be because I'm not a jurist, but that's the way I see it. I think there is the possibility. If states really want to do something about dealing with the causes of genocide, then they have to consider political and economic issues rather than this total emphasis on legal instrument. Thank you.
Alors là, je traduis la perspective, la question c'était, est-ce que en dehors de la convention de 48, il y a d'autres perspectives légales de prévention du génocide? La réponse de Mark Levin, c'est qu'il a dit que, à son sens, c'est le sens de sa conférence, c'est que la question légale est importante, mais ce n'est pas la question essentielle. La convention, bien qu'elle soit pleine de trous, de toute manière, permet déjà de faire quelque chose, et c'est une question, donc ensuite, plutôt de volonté politique que de perspective légale. Si les États veulent faire quelque chose, ils peuvent le faire. Mais encore faut-il bien mesurer que l'action n'est pas seulement légale, c'est une action qui doit être d'abord traitée des questions politiques et des questions économiques, et qu'à cet égard, il est significatif que, parmi les joueurs principaux, les États-Unis, eux, ne tiennent pas justement à trop s'engager du côté légal, même s'il est possible déjà de faire quelque chose en termes d'action légale. Mais le sens de cette conférence, c'était que les conditions du génocide sont d'abord des conditions politiques et des conditions économiques, et que l'aspect légal est un aspect, mais pas l'aspect principal.
Merci.
Voilà. Alors, monsieur, vous êtes...
Deux questions courtes.
Une d'abord.
Alors, première question, vous avez analysé avec beaucoup de finesse les causes immédiates du génocide, à savoir les différents mythes. Et si je prends l'exemple de l'Allemagne, le mythe du coup de poignard dans le dos, le mythe de antisémite et le mythe des Germains.
Bon.
Mais en amont de ces causes immédiates, pour le cas de l'Allemagne en tout cas, il y avait une cause qui était le traité de Versailles. Si, au lieu de viser des ennemis complètement mythiques, ce qu'a fait Hitler, Hitler aurait dénoncé uniquement le traité de Versailles, à ce moment-là, probablement ça aurait été mieux. C'est-à-dire que les choses auraient été plus claires, plus proches de la réalité. Est-ce que vous ne pensez pas que, comme on a parlé de prévention tout à l'heure dans une précédente question, est-ce que vous ne pensez pas que la prévention s'adresse aux causes des mythes, aux causes qui créent les mythes, et non pas aux mythes qui sont les causes immédiates?
Okay, now.
Okay.
So he said that you dealt with the immediate causes.
But what he believes the immediate causes, that the myths and the sort of traumatic memory.
Yeah.
And he said that in the case of Germany, the main reason was the Treaty of Versailles. And it would have been better if Germany had denounced the Treaty of Versailles rather than incriminating aliens or the Jews. So what do you think of that?
We have the problem, you know, why the Jews? That's the problem. You know, I mean, the Treaty of Versailles, what has it got to do specifically with the Jews? Nothing. It's not, the Jews are totally peripheral to this issue. So somewhere we have to find, after all, genocide doesn't happen every day, thank God. There is a lot of genocide, but it is nevertheless something quite specific. And in a sense, that does lead us back to what the political culture of a country is and why. And of course, the problem with the Jews is this problem is not peculiar to Germany. In a sense here, we're talking about something extraordinary because the issue of anti-Semitism is essentially a European disease. But I would agree with you that what makes it particular and peculiar to Germany, in a sense, is the fact that Germany was defeated in the First World War. And if I can be just a little provocative, I won't talk about France, but suppose Britain had been defeated at the end of the First World War. What would have been the reaction then? So actually, I am proposing that some traumatic event is very often critical, not always, but very often is critical to understanding how rational people turn into people who become really quite hysterical and need an explanation of, you know, the enemy within.
Alors, il est d'accord avec vous que le traumatisme principal, c'était effectivement le traité de Versailles. Mais tout ce qu'on a, ce qu'il y a à comprendre, et ce qui est incompréhensible justement, c'est qu'est-ce qui fait que s'établit le lien entre la défaite de 1918, le traité de Versailles, et puis les Juifs. Comment se fait-il que ce qu'on a expliqué, si on veut justement prévenir le génocide, c'est comprendre comment se fait la transition, je dirais, depuis des conditions qui sont identifiables comme le traité de Versailles, avec ce discours hystérique qui se met en place sur les Juifs. Parce que, comme Marc Levin a dit, que de toute manière, l'antisémitisme est un problème européen, hein, mais il se trouve que c'est en Allemagne que ça prend la forme du génocide des Juifs. Et il s'interrogeait de manière provocante en disant, si la Grande-Bretagne avait été défaite en 1918, qu'est-ce qui se serait passé et quel lien aurait pu être fait entre justement la défaite de 1918 et puis éventuellement ou non trouver un bouc émissaire? Parce que Marc Levin dit qu'il s'est effectivement produit beaucoup de génocides, mais il y en a beaucoup aussi qui ne se produisent pas. Et donc ce qu'on a à analyser, c'est disons les conditions dans la culture politique qui font que le génocide vient à se produire. Alors, vous avez une deuxième question, rapidement. moins compliquée, mais il faudrait la donner à tout le monde.
La deuxième question est très courte. On critique beaucoup la mondialisation et l'individualisme forcené, mais à partir du moment où l'individualisme serait sur toute la planète, il n'y aurait pas cette notion d'appartenance à un groupe qui est la base, justement, l'appartenance à un groupe est la base...
Okay. So he says that... Everybody's to deciding globalization and the growth of individualism. But in fact, if individualism prevailed everywhere, there would not be any genocide.
Well, I have only one response to that. I think there are not enough people criticizing globalization. There needs to be more. Bon, yes, donc, not in agreement.
Donc pas d'accord avec vous. c'est... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Où est le micro là, madame? Excusez-moi. Alors essayez d'être simple pour la question.
Oui, je vous remercie mille fois. Ça marche, hein?
Oui, c'est bon.
Pour cette, je crois que c'est la première fois que j'entends parler de ces questions cruciales avec autant de précision, d'objectivité et de finesse d'analyse qui nous donne espoir justement en ce que, c'est le mot qui vient à tout le monde, n'est-ce pas? C'est la prévention. Alors, moi, je fais une proposition et je vous demande d'avance si vous l'acceptez. C'est qu'on crée pour vous une chaire d'épidémiologie politique, n'est-ce pas? Parce que, si je vous ai bien entendu, et si j'ai bien entendu aussi les traductions de Michaud, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est la liaison entre l'histoire politique, enfin la constitution politique, et la pathologie, et à pas en sortir, vous nous parlez de pathologie, n'est-ce pas? Et le lien entre les deux. Et c'est rarissime que cette articulation soit faite de façon aussi claire et désengagée du point de vue de la désignation des valeurs. En fait, c'est les humains qui sont voués à ça, c'est pas telle ou telle culture, n'est-ce pas? Donc je propose la création d'une chaire internationale d'épidémiologie politique, et je trouve qu'on devrait réunir des gens autour de vous pour travailler à ça, c'est urgent.
Okay.
Est-ce que vous l'acceptez?
She complimented you for the precision, the objectivity, and the accuracy of your analysis,
and
said that all what you understood is that that's the hope for prevention, which is essential. Yeah. So she was proposing to promote a chair in political epidemiology.
Yes.
And that you should be.
Oh, thank you.
Merci beaucoup.
Vous êtes trop gentil.
Oui. Non, we just need the funding.
il manque les fonds. Hein. Il accepte la chaire, mais il manque là, les fonds. Est-ce que, autre question, une question. Qu'est-ce qu'il y a? Là, où est-ce qu'il y a? Monsieur? Allez-y, oui. Monsieur.
Very funny. Thank you.
Alors, l'auteur a parlé de volonté de puissance. Je trouve que c'est très remarquable d'avoir commencé son discours de la sorte. Et il a parlé aussi, c'est aussi très remarquable, de sentiment de faiblesse. Je trouve que le mélange des deux est très remarquable aussi. Et il me semble qu'on ne peut pas éviter cette question. L'avortement a tué l'avortement. Est un génocide. L'avortement est un génocide qui a fait plus d'un milliard de la vie même de l'ONU, qui a fait plus d'un milliard de victimes. Alors, la question est la suivante. La question est la suivante.
Attendez,
Monsieur Lévin,
s'il vous plaît, laissez.
Monsieur Lévin considère l'avortement comme un génocide.
Bon. S'il vous plaît, un peu de calme. Je ne pense pas nécessaire que. Enfin, je marque le
vide. Abortion is a form of genocide.
So you said
look.
That? No, sorry, sorry.
Look,
alors, monsieur, monsieur.
I know that.
Un peu de calme,
let me repeat very simply. It may not just be. There may be people here who feel upset that I haven't included a lot of things as examples of genocide. What I'm trying to do here is to suggest that we have to be, whatever our views are on abortion or anything else, we have to try and be very specific about what we are particularly talking about here. And I personally, and it's my personal view,
don't think it helps to try and embrace so many different things within this term. But that's a personal view.
Voilà. Alors, que ça soit clair, puisque ça avait été déjà dit dans, au début, c'est quel que soit le sentiment qu'on peut avoir sur l'avortement, la position de Marc Levin est que dans ces questions-là, nous devons être précis, que ça ne sert à rien d'englober sous la notion de génocide tout et n'importe quoi et trop de choses. Voilà, c'est clair.
Sorry.
Okay. Alors, autre, on va prendre encore deux ou trois questions, pas plus. Là, j'en vois trois, et puis on s'arrêtera quand même. Oui, mais là, on a l'habitude. Excusez-moi. Non, 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 en haut, s'il vous plaît. Passez en haut. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il ne faut quand même pas monopoliser toujours les questions. Ouais. Allez-y, madame.
Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous parler du contenu historique de ce qu'on explique de l'histoire de nos pays à nos enfants dans les livres scolaires?
Ah, what do you think about the, what is taught to the children on these issues in the...
Okay. I don't know. I think this is a very... I will say one interesting thing about and again, maybe a little bit provocative thing about the country I live in, Britain. In Britain now, we do have on our national curriculum for school children the Holocaust as a subject being taught. But I have an anxiety. I think this is good. I think this is very, very good. But I have an anxiety that what is happening now, and I know what I'm going to say is a little controversial, so forgive me. I have an anxiety that by emphasizing only the Holocaust and not teaching people about other things which go on in our contemporary world, we may be trying to put something entirely in the past as something which is finished and is not about the present day. And one thing I would like to emphasize is that genocide is about the here and now, and it's not going to go away. The problem is that what I'm saying is asking children and their teachers to criticize. You know, because I'm saying the problem is part of our society. So in a way, it's, you know, what you ask, I'm not sure what the answer of how you do this is. I think it's a very difficult problem in our society.
Voilà, alors la réponse est importante, c'était concernant la manière dont les choses sont pensées sur ce point aux enfants. Bon, vous avez vu la première réaction de Marc Levin. Il prend l'exemple des programmes d'histoire en Angleterre qui comportent effectivement la question de l'Holocauste. Mais tout en disant cela, en prenant des précautions, il dit que son inquiétude, c'est que si on insiste exclusivement sur l'Holocauste, on risque de situer le génocide comme entièrement dans le passé et comme quelque chose, disons, d'une certaine manière, qui est fini. Alors que le génocide reste toujours quelque chose de potentiel dans nos sociétés et qu'il faudrait avoir une vision plus large. Et là, ce qu'il faudrait, c'est apprendre justement aussi bien aux enfants qu'aux professeurs à avoir un regard critique. Bon, mais c'est pas facile. Alors, encore deux questions, madame et puis monsieur. Hein, monsieur et madame, voilà. Okay. Oui, si vous prenez à l'anglais.
Monsieur, en anglais, s'il vous plaît. Given about prevention again, given what you've said about the nation state and societies, is one method of prevention truly functioning, truly participatory democracies where there's freedom of expression, freedom of press, a balance of power? Isn't that an excellent way to try to prevent genocide?
Bon, donc là, je traduis la question cette fois-ci. En bas, à madame, hein, la suivante, la dernière question. Donc, est-ce que s'il s'agit de prévenir les génocides, et si les génocides impliquent l'État-nation, est-ce que la bonne manière de prévenir n'est pas de promouvoir systématiquement la démocratie participative et avec liberté d'expression, liberté de discussion, etc.
That's an interesting one. That's a, I mean, yes, but, why is it that countries which commit genocide do not have these foundations? What I'm trying to argue is it may be something to do with the schizophrenia of the modern world. That we want, we demand, we in the West demand countries now to be democratic, to participate in these things, which are a good idea. But at the same time, and this comes back to the question of globalization, we demand them to participate in things which do not necessarily help their societies to develop in a humane way. And in a way, this is part of the this is not just the problem of genocide, this is the problem of the modern world. But it seems to me that, and it's not enough to say, let's all be democratic, let's create a tolerant society. You have to create economic and social conditions globally in the modern world to make that possible. And we don't.
Voilà, je traduis, vous avez compris en partie. La question et la suggestion de monsieur était excellente, effectivement, mais, hein, oui, mais, ce qui est que le problème est quand même plus large que celui de la démocratie, c'est aussi le problème de la schizophrénie du monde moderne. En fait, ce que nous demandons tous, c'est nous demandons aux pays d'être démocrates, nous leur demandons d'entrer dans le progrès, mais en même temps de participer à des choses qui ne promeuvent pas forcément, pas uniquement le développement humain. Donc ça ne suffit peut-être pas que nous soyons tous démocrates, il faudrait aussi que les conditions politiques et économiques soient aussi au rendez-vous. Et que c'est le problème, d'où ça le ramenait à la question de la mondialisation et de la critique de la mondialisation. Alors, une dernière question, madame.
Je vous prie. Vous entendez ?
Oui, oui.
Je vous prie de m'excuser, ce n'est pas tout à fait une question, mais c'est une petite mise au point malgré tout à la fin de ce brillant exposé. J'aurais aimé entendre la spécificité de la Shoah.
Angie ?
I suppose I belong to that group of people looking at this subject who would like to see more understanding of the subject in the broad. There are specificities to the Shoah. And I hope in my paper, in what I said today, I did try to suggest that there are things which are very exceptional about this genocide par excellence. But genocide does not begin and end with the Shoah. And we have had in the last decade a genocide in Rwanda, in which more people were being killed per day in a much shorter time by very much more technologically unsophisticated weapons than in the Shoah. And we could have a conference, a talk simply about the Shoah. But what I was proposing here to do was to say, let us look at this subject within a broader framework.
Voilà, la réponse.
Non. Ça n'a jamais
existé dans aucun génocide. Opinion.
Alors, là, ça sera la dernière réponse à la dernière question. Marc Levin ne nie absolument pas qu'il y a des spécificités à la Shoah. On pourrait en parler. C'est le génocide par excellence. Mais il appartient à la catégorie des personnes qui veulent essayer de comprendre le sujet dans toute son ampleur. Hein, même s'il y a une spécificité de la Shoah, les génocides n'ont ni commencé ni terminé avec la Shoah, et que ce qu'il veut, c'est essayer de contribuer à la compréhension du phénomène en général. Voilà, je vous remercie. Nous remercions.
Merci. Merci beaucoup.